nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. On se croirait dans un hôtel particulier. Une fois entré dans son siège, il va prendre l'ascenseur pour aller dans son bureau qui se trouve au dernier étage. Arrivé au cinquième, il sort de l'ascenseur. Hall d'entrée de marbre gris. Banc avec hôtesse en tailleur rouge. Et oui, le rouge est redevenu à la mode. Un huissier lui ouvre une porte qui donne à un long couloir où à l'autre bout du couloir se trouve son bureau. Un autre huissier qui est assis à un bureau lui ouvre la porte de son bureau. Une fois dans son bureau, vaste pièce carrée de marbre gris, sol et mur, grand bureau qui a une baie vitrée qui donne sur une terrasse transformé en jardin d'où l'on voit tout Paris. Les meubles sont modernes, en bois noir. Bibliothèque à droite, deux fauteuils de cuir noir en face du bureau, à gauche. Un petit bureau pour secrétaire. En face du bureau, au fond de la pièce, un petit bar avec fauteuil, un coin bar avec fauteuil et table blanche. Maurice pose son cartable à terre et va s'asseoir à son bureau. Soupir. Réfléchit. Prend son téléphone. Fait un numéro.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à M. Mercier de venir me voir à mon bureau? Merci.
Ouvre le tiroir de son bureau. prends des feuilles de papier et un stylo. On frappe à la porte.
Entrez.
La porte est ouverte. C'est l'huissier. Monsieur, c'est Monsieur Mercier.
Bien. Faites-moi entrer.
L'huissier laisse entrer un homme. Grand, mince, blond, cheveux courts, visage agréable dans les 35 ans. Habillé d'un costume gris.
Venez vous asseoir, Monsieur Mercier.
Monsieur Mercier va s'asseoir en face du bureau.
Je vous ai fait venir parce que le président de la République m'a proposé une affaire. C'est la reconstruction de Paris dans un premier temps, puis de toutes les grandes villes de France. Et vous avez accepté? J'ai demandé à réfléchir. Comme tous les hommes politiques, il n'a aucun sens des réalités. Il n'y connaît rien. Ça lance des idées comme ça, et c'est à nous débrouiller. Et si la chose échoue, c'est-à-dire si elle échoue financièrement, ce sera notre faute. Nous allons étudier la question, faire un dossier et voir si nous acceptons. Vous allez travailler avec moi pour préparer ce dossier. Bien, Monsieur le Président. Et ils se sont mis au travail avec leur équipe. Ils ont regardé les cartes de Paris, visité la ville, demandé le nom des propriétaires de terrains et immeubles, car ça peut être deux propriétaires différents. Étudier le prix que l'on peut proposer pour chaque quartier. Visiter avec les architectes, d'après le plan de Paris, ce qu'il faudrait construire et comment. Après avoir étudié ce qu'il y avait à se construire, détruire, le personnel qu'il faudrait, le temps de travail, on a évalué le prix de l'entreprise, tout en sachant que les chômeurs ne seront pas payés, mais nourris, logés, blanchis, habillés, et que les chômeurs ne feraient que du travail de manutention, manœuvre, rien d'autre. Les employés spécialisés, il faudra les payer. Un mois après, le dossier est fini. Il est positif pour la société. Boris, de son bureau, téléphone au président. Je suis Monsieur Maurice Framblanc. J'aimerais parler au président. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Je vous téléphone et vous dire c'est que nous avons fini d'étudier votre offre. Le dossier est prêt et je peux vous l'apporter quand vous le désirez. J'accepte votre demande.
Marc lui dit, vous allez devenir le premier groupe français et du monde.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais pourquoi ce cadeau?
Vous avez des amis puissants et qui vous aiment beaucoup.
Qui?
Je ne le sais même pas moi-même.
ça vient de loin. Paris, comme toutes les villes de France et du monde, est une ville délabrée, avec ses immeubles qui se dégradent par manque d'argent pour les entretenir, les rénover. Ils ont des trous de balles, d'obus. La rue, la chaussée est défoncée, les détritus de partout, peu de voitures, de passants. Les magasins, les vitrines sont presque vides où le rideau de fer est tiré. Des chiens errants. La puanteur, tout ceci donne un côté apocalyptique à la ville. Bien entendu, il reste quelques rares beaux immeubles bien entretenus, mais ils sont de plus en plus rares. La nuit, les rues sont sombres, presque pas d'éclairage public, et les magasins ne sont pas éclairés. À part des SDF, il y a très peu de gens dehors. Des spectacles, cabarets, restaurants, bars n'ouvrent qu'un soir par semaine. Les gens restent chez eux à regarder la télévision, s'ils ont les moyens ou s'ils n'ont pas les moyens à lire. Car on se remet à lire. Oui, ce vieux support, le papier, est redevenu à la mode, si l'on veut. Que les gens n'ont pas d'argent, ils se remettent à lire. C'est moins cher qu'un ordinateur ou que la télévision. Mais c'est pas pour autant que l'industrie du luxe ne marche pas. Elle marche très bien. Mais les pauvres n'achètent que des livres d'occasion pour se distraire. Les gens n'ont pas les moyens de s'en acheter des neufs. Et puis, toutes ces histoires modernes qu'il y a sur ces livres nouveaux ne les intéressent pas. Ils aiment les histoires qui leur rappellent la vie d'avant. Ou les rêves d'antan, les livres dits à l'eau de rose, marche fort. Ce sont des bouquinistes d'occasion qui font de bonnes affaires. Les gens achètent chez eux de vieux livres de poche pour presque rien. Mais il y a encore des gens qui, pour se distraire, ont encore de l'argent. Des fils de bonne famille, à papa, comme l'on dit, peuvent encore organiser des soirées, comme cette soirée que l'on entend dans cet hôtel particulier du 16e. Dans le salon Louis XVI du premier étage, le fils de la famille a invité une vingtaine de ses amis, copines, copains. Ses parents sont absents. Toutes les lumières sont éclairées, la musique à fond la caisse. Bouteilles de whisky, champagne, vodka, jus d'orange sur les tables basses avec amuse-gueule. Des jeunes sont assis sur des chaises, fauteuils ou enlacés sur des canapés. Ils rient, ils parlent. Ils chahutent, ont entre 16 et 20 ans, grands, minces, beaux, d'une beauté juvénile et insouciante, en costume ou chemise blanche. Les jeunes filles, en robe habillée, car la mode est revenue aux années 50, enfin pour ceux qui en ont les moyens de suivre la mode. Et pourquoi ce retour aux années 50 ? Parce qu'une société qui a des problèmes, de gros problèmes, se replie sur elle-même et aime se rappeler et revivre son passé, un passé plus heureux. En tout cas, qu'il croit être plus heureux. Un jeune homme est assis sur le rebord d'une table basse, un verre de whisky à moitié vide, à la main, habillé d'une chemise blanche à l'encolure ouverte, cravate noire défaite, pantalon noir. Il semble grand, blond, le visage rond et très juvénile. Il a 18 ans et semble en avoir 15. C'est le fils de la maison, fils unique, fils Lefort, l'ancien ministre de l'énergie. Son fils s'appelle Raoul. Ses parents sont partis quelque part en Amérique. Il est seul avec les domestiques. Il est assis en face d'un canapé où se trouvent un jeune homme et une jeune fille. La jeune fille est plaquée contre le jeune homme. Elle est grande, mince, blonde, le visage rieur et est habillée d'une robe blanche. C'est Jeanne, la fille d'un gros industriel de vente d'armes et de produits diététiques. Il habite le Chili. Mais français, c'est l'ancien président de la République, l'ami de Pontois, celui qui est parti en exil à cause de la marche de la prise du pouvoir de David. Tout ça est loin, bien loin, et l'ancien président est vieux, très vieux. Il ne s'occupe plus que de ses affaires et rêve de marier sa fille à un fils, Rinaldi. Le jeune homme qui est assis à côté de la jeune fille, c'est le fils de Maurice Franblanc, fils unique. Il s'appelle Gilbert et a 18 ans, grand, mince, blond, visage rond, yeux bleu profond, nez fin, distingué. C'est le genre de personne qui restera longtemps jeune. Il est habillé d'un costume noir et d'une chemise blanche, c'est la mode. Il a à la main lui aussi un verre de whisky à moitié vide. Raoul lui demande « C'est vrai ce que j'ai lu dans l'hebdo économique, que ton père aurait raflé le contrat du siècle ?» Gilbert lui dit « Je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce que c'est que le contrat du siècle ? Tout ça, c'est du langage de journaliste. » Mon père, ah, je crois, il a signé avec l'État pour la reconstruction de Paris. La fille lui dit, c'est bien ça, te voilà riche. Gilbert dit, les affaires de mon père ne m'intéressent pas. Raoul lui dit, on dit ça, mais quand tu prendras sa succession, tu seras bien content. Il n'a pas du tout l'intention de prendre la succession de mon père. Et que veux-tu faire alors ? Je ne sais pas. Et puis pourquoi veut-on me faire prendre la succession de mon père ? Toi, tu peux bien parler. Tu n'auras pas de succession. Et si tu en as, ce ne sera que de l'argent à prendre. Rien d'autre. Raoul lui dit, oui, mais moi je serai obligé de chercher du travail. Tandis que toi, prends ma place si tu le veux. La fille demande à Gilbert, et que veux-tu faire plus tard ? J'aimerais, c'est écrire des pièces de théâtre. Raoul lui dit, c'est pas un métier ça, mon vieux. Je le sais, je veux être en plus professeur de français. Jean lui dit, tu vas vivre petitement, mais si ça te plaît, et puis tu vas hériter de ton père. Gilbert lui dit, il ne restera peut-être plus rien de sa fortune. Raoul rit et lui dit, que l'homme qui a signé le contrat du siècle, cela m'étonnerait. Gilbert ouvre ses épaules. Jean lui dit, assez discuté. Allez, viens danser. Il pose son verre sur la table basse et l'emmène danser. Il trouve la jeune fille charmante, mais sans plus. Elle est très moderne. Elle le trouve très beau et se dit qu'il va devenir le fils de l'homme le plus riche de France. Et peut-être que papa accepterait qu'elle se marie avec lui. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces Rinaldi ? Leurs ancêtres étaient des bandits qui se sont emparés d'un fort. Elle lui dit, je trouve Raoul gentil, mais très terre à terre. Moi, j'aime les jeunes gens qui veulent réussir par leurs propres moyens. Vous en connaissez beaucoup ? Au Chili, oui, plus qu'en France, mais ils n'ont pas la finesse des Français. Vous restez longtemps à Paris ? Hélas, non, une semaine. Après, je pars à l'Italie. Père le veut. Mon pauvre papa, il est toujours interdit de séjour en France, comme un bandit de grand chemin. Lui qui a tant fait pour ce pays, il a tant aidé les pauvres avec son ami Pontois. Et en guise de remerciement, on le force à vivre en exil. Peut-être reviendra-t-il un jour, d'après le président de la République, il serait arrêté dès son arrivée pour escroquerie en tout genre. Mais ne parlons plus de tout ça. Il faudra venir nous voir un jour au Chili. Père sera très heureux de faire votre connaissance. Je vous remercie. Et il continue à danser. Gilbert n'a pas du tout l'intention d'aller au Chili. La jeune fille est charmante, mais elle a un père un peu trop encombrant.
Thank you.
3 heures, les jeunes commencent à être fatigués. L'alcool les a alourdis, la musique abasourdie et le désir sexuel non assouvi épuisé. La tête leur tourne un peu, ils ont des relents d'alcool et l'air enfumé leur donne de la nausée. Un couple danse en sourdine. Les autres se sont assis à terre ou attablés. Ils n'ont plus tellement envie de parler, transpirent, sont défaits. C'est la fin de la soirée. Lui, Gilbert, n'a pas tellement bu. Il n'aime pas boire, mais se sent malgré tout, lui aussi, un peu vaseux. Jean lui dit, « On s'en va, il n'y a plus rien à faire ici. » « Oui. » « Tu me raccompagnes ?»« Oui. » Ils vont dire au revoir à Raoul, qui est avachi sur une chaise. Gilbert lui dit, « Nous partons. » Raoul lui dit, « C'est toujours la même chose. Les soirées se terminent tristement. Vous partez ?» Tous les deux ensemble, soyez sages, Gilbert lui dit. Ne t'en fais pas. Ils se tendent la main. Raoul embrasse Jean et lui dit. Reviens nous voir. Oui, je n'y manquerai pas. J'aime Paris. Le Chili, c'est un peu calme pour moi. Et ils s'en vont. Une fois dehors, le noir, la fraîcheur, le calme, les surprend. Elle lui dit, ça fait du bien, on respire un peu après une nuit comme celle-là. On a envie de se rouler dans l'herbe. Gilbert se dit, il en faut peu, quelle nuit. Ils n'ont fait que danser, boire un peu et parler. Il lui demande, vous habitez loin ? Un hôtel, place de l'Étoile. Il lui dit, je n'ai pas de voiture. Elle lui dit, moi non plus. Et il n'y a pas de taxi. Il lui dit, alors je vous accompagne à pied. Elle lui sourit, lui prend le bras, se baisse, enlève ses chaussures qu'elle tient à la main. J'aime bien marcher, pieds nus la nuit. Lorsque nous arriverons, je vous offrirai un café au bar. Gilbert lui dit, c'est vrai, le calme, la fraîcheur de la nuit, on se sent revivre, on se sent plus fort. Pris à l'air désert et sans nous appartenir. Elle lui dit, il vous appartient ? L'on a offert Paris à ton père. Tu ne t'en souviens pas ? Gilbert sourit et lui dit, Paris appartient à tous les amoureux de Paris. C'est pas une affaire d'argent ou de propriété. Je suis sûr que un jeune homme tient comme celui-là, cette nuit, à cette heure, en se promenant. Si tu veux, en marchant dans les rues désertes, avec cette fraîcheur, il a l'impression que Paris lui appartient. Elle lui dit, oui, Paris a toujours fasciné la jeunesse. François Sagan a dit à deux Paris, comme l'a dit avant elle Rastignac. Gilbert lui dit, comme le pense le pauvre SDF, couché sous les ponts même de Paris. Et sourit, soupire et lui dit, je veux vivre à Paris moi aussi. Il faut que je trouve un gentil garçon. Il lui dit, très riche. Elle lui dit, plaire à papa. Et je vous crois, je vous trouve, gentil garçon. Elle lui serre le bras et lui dit, parce que vous me supposez être riche. Et sourit et lui dit, ça c'est pour plaire à papa. Mais pour moi, c'est parce que je vous trouve très séduisant et beau. Il sourit et lui dit, malheureusement, je crains de ne pas plaire à votre père. Elle lui dit, un amoureux de Paris, c'est impossible. Il y en a des tas, vous savez. Oui, mais vous, vous détenez les clés de la ville. Il sourit et lui dit, c'est idiot, c'est mon père. Elle lui dit, c'est tout comme. Il pourrait faire la pluie et le beau temps. Gilbert lui dit, vous oubliez tous ces gens qui n'ont rien. Paris est une grande cour des miracles. Elle lui dit, la richesse est cachée, elle se fait non-voyante, mais elle est là, la preuve, vous êtes là. Et il continue à marcher sans parler. Il la trouve plus intelligente qu'il ne le pensait. Elle est une gentille fille. Quel dommage qu'elle ait un père pareil.
Bonjour.
Et puis, avec elle, il faudrait avoir un très bon salaire. C'est pas un salaire d'un professeur, même s'il fait quelques pièces de théâtre qui suffiraient à faire vivre cette fille qui a l'habitude de la richesse. Et puis lui, n'a pas du tout envie de se marier pour le moment. Il est encore trop jeune et a beaucoup à apprendre. Elle, elle se dit qu'il est jeune et que ses idées évolueront. C'est étrange. Je suis plus réaliste que lui. Elle le regarde et sourit en se disant, c'est vrai qu'il est mignon. Un vrai petit prince de conte de fées. Le prince de Paris.
Bonjour.
Voilà un beau titre. Et cela sonne comme le titre d'un livre sentimental de jeune fille à la délire. Ils arrivent place de l'Étoile. Elle lui montre son hôtel, Hôtel Palace. Elle lui demande, vous voulez boire quelque chose au bar? Oui, je veux bien. J'ai encore du chemin à faire. Elle le mène à l'hôtel. Ils sont entrés dans l'hôtel. Magnifique hôtel à l'ancienne, marbre, tapis rouge, etc. Elle va le mener au bar de l'hôtel.
Allô, Bob Royal, j'écoute.
Non, mais elle
est là. Oui, oui, elle est là, oui. Depuis un bout de temps, même. Enfin, je le passe. C'est pour vous, monsieur le détective. Une autre ?
Lumière tamisée, musique douce, petite lampe sur table basse, un homme et une femme à terre, tenue de soirée.
Allô, Bob Royal, j'écoute.
Devant le bar.
Ah, ça va, ma belle.
Elle mène à soir Gilbert à une table. Un serveur vient vers eux.
C'est pour vous, monsieur le détective.
Elle demande à Gilbert, qu'est-ce que vous désirez prendre ? Un café bien fort et sucré, et un morceau de brioche. Et vous ? Moi aussi. Le serveur s'éloigne. Elle lui dit,
une autre ?
Voyez bien qu'à Paris, il n'y a pas que des pauvres. Il lui dit, oui, le serveur leur amène leur consommation. Gilbert dit au dit à Gilbert en se servant de la brioche, il faut que je mange, je m'excuse, mais j'ai du chemin à faire. Et lui demande, vous habitez où ? Avenue Velasquez, parc Morceau. On peut dire, dans le parc Morceau, je suis voisin de la SCAM. Et lui dit, mais c'est loin, il faut partir en taxi. Il faut rentrer en taxi. Elle fait signe au serveur. Pouvez-vous appeler un taxi pour monsieur ? Bien, madame. Gilbert dit. Je doute qu'en ce...
Allô, Bob Royal, j'écoute.
Qu'en ces temps, on trouve un taxi. Ils veulent plus circuler la nuit à cause des agressions. Elle lui dit, tout en buvant son café. Eh bien, s'il n'en trouve pas, vous coucherez ici jusqu'à 8 heures. Il se dit sûrement pas. Ce serait trop compromettant. Il lui dit, je vous remercie, mais je peux accepter. Que penserait votre père ? Mais il ne le saura jamais. Il est loin. Je ne suis.
Ah, ça va, ma belle.
Il ne vous fait pas surveiller ?
Depuis un bout de temps, même. Enfin, je passe.
Il ne vous surveille pas ? Elle lui dit. Vous croyez ? Sûrement. Elle soupire et lui dit. Il est vrai que des fois j'ai l'impression. Il lui dit. Alors il vaut mieux pas ? Termine leur café et brioche. Le serveur s'approche d'eux et leur dit. Je suis navré. Il n'y a pas de taxi avant 8 heures. Gilbert lui dit, merci. Il s'éloigne et dit à John. Je vais rentrer à pied. Je vous remercie pour le café.
Elle lui dit,
je suis confuse, c'est de ma faute. Tout ce trajet en plus, ce n'est rien. Je crois qu'il est temps que je me mette en route. Il se lève, elle aussi. Je vais vous raccompagner jusqu'à la sortie. Elle leur accompagne.
Allô, Bob Royal, j'écoute. Ah, ça va, ma belle ?
Oui, oui, elle est là, oui. Depuis un bout de temps, même. Enfin, je le passe. C'est pour vous, monsieur le détective.
Avant de le quitter, elle lui dit, nous le reverrons, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Il lui donne un baiser sur la joue et s'éloigne. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la place de l'Étoile, la nuit l'enveloppe. Le café lui a fait du bien. Il marche d'un bon pas. Les rues sont toujours désertes. Le silence est peut-être plus profond que tout à l'heure. Ou peut-être est-ce dû à l'escale de l'hôtel. Il marche en silence et se dirige vers le boulevard Hoffmann pour aller chez ses parents. Il coupe le grand boulevard pour aller plus vite en prenant de petites rues. Il est fatigué. Heureusement que ce matin, il n'a pas cours. À un moment, il entend des pas derrière lui. Cela lui fait bizarre. Il n'ose pas se retourner pour voir. Les pas se rapprochent. Il les sent à sa hauteur. Tu n'as pas 10 balles? Non, j'ai pas d'argent sur moi. Et regarde-moi ça. Regarde-moi quand je te parle. Gilbert le regarde. Il voit un jeune homme mince dans les 20 ans, cheveux frisés noirs, casquette de rappeur, habillé en jean, veste et pantalon. Il a à sa gauche un autre mec. Celui qui lui a parlé lui dit: tu nous prends pour des imbéciles, toi? Pas d'argent, comme tu es habillé? Non, j'ai pas d'argent. Je n'en ai plus. Espèce de con, nique ta mère. Va te faire foutre, pédé. Gilbert lui dit: nique ta mère, toi, si tu veux. Ma mère, moi, elle mérite le respect. Et je l'insulte pas. Je lui dis: comment? Tu veux que je nique ma mère? Petit con, sale race, salaud. Si tu dis encore de niquer ma mère, tu vas voir. Gilbert furieux lui dit: et toi alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je nique ma mère? L'autre lui dit: ta mère, va te faire foutre. D'un coup, l'autre prend Gilbert au collet et lui dit: ta mère ou pas, sale race, tu vas nous donner ton fric. Gilbert furieux lui crie: sûrement pas. Celui qui le tient au collet crache à la figure. L'autre lui donne un coup de poing dans le ventre. Gilbert se penche et grimace de douleur. Celui qui le tient au collet le pousse, le renverse pour le faire tomber à terre. Fonce sur Gilbert qui est à terre, le plaque contre terre. Gilbert se débat, se détend, se débat. L'autre lui fouille les poches. Gilbert crie: au secours, il essaye de sortir de leur entrave. Arrêtez de crier, pédé, sale raciste, on dira que tu nous as insultés. Il prend son portefeuille et l'ouvre. L'autre fouille les poches. Au secours. Entendu une voiture freiner. Gilbert voit les deux jeunes gens soulever et jeter l'eau plus loin. Apparaît une silhouette d'un homme grand, mince, habillé de noir. Il y voit mal, il ne peut pas bien le voir. Il a entendu les deux agresseurs s'éloigner en courant. L'homme se penche. Ça va? Oui. L'homme l'aide à se relever. Gilbert a la tête qui tourne et des douleurs de partout. Il y voit trouble et tremble. Merci. Et viens, je vais te mener. Il le prend à l'épaule et le mène à une vieille voiture noire. Il le fait entrer dans le siège avant. Puis, lui va s'asseoir à la place du chauffeur. elle a mis la voiture en route. Il tend à Gilbert son portefeuille. Tiens, je l'ai récupéré. Merci. Gilbert le met dans la poche revolver de sa veste. L'homme lui dit, tu n'as pas trop mal ?
Non, j'ai des douleurs de partout.
Oui, tu as un peu de sang sur la joue.
Écoute, on ne peut pas rentrer comme ça chez soi.
Il faut te nettoyer. Je vais te mener chez moi.
J'habite le quartier du Marais. Ça te va ?
Oui, merci.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.